Alors, c'est quoi l'autre déjà? Ah ouais, les autres. Pas important. Bonjour. À demain.
Boulevard 102. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Having met with the owners of Canada over the course of the campaign, it's not for sale, won't be for sale, ever.
Les enjeux qui te concernent.
Je ne sais pas comment le dire, là. Je vais être là en octobre 2026. Je veux un troisième mandat.
Le plus gagnant de la veille. La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Pas le choix de mettre ma graine de sel là-dessus, là.
Hein?
Ça,
quoi?
Une graine?
Ben, ça se dit pas du
tout. C'est un grain de sel.
Boulevard 102. Du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102. En espérant que tu aies passé une belle journée. Moi, ça a été mon cas. On en a profité ce matin. Il y avait de la température qui était adéquate pour en profiter. On entendait les petits oiseaux siffloter. À qui mieux? C'est le printemps. Hein? Ils ont le droit de faire leurs petites affaires comme nous autres, on faisait dans le temps, dans les bars. Hey, aujourd'hui, on a atteint quoi? Un genre de avec le facteur humidex, on a atteint 31-32 degrés. Donc, ça a été une super de belle journée. Est-ce que ce sera le cas pour ce soir? Je sais qu'à certains endroits, il y a plu. Entre autres, dans le secteur Le Bourgneuf, Lévis, tantôt, on me disait qu'il y avait plu aujourd'hui. Mais somme toute, ce soir, partiellement nuageux avec un minimum de 12 degrés. C'est ce qu'on nous annonce avec un 30% de probabilité d'averse. Demain, vendredi, une belle journée ensoleillée avec des probabilités d'averse à 30%. C'est ce qu'on nous mentionne pour demain, un maximum de 17 degrés. Samedi, des averses maximum de 21 et dimanche, ce sera de la pluie avec un maximum de 16. Mon invité de ce soir dans Marceau Soir, c'est Dr Joël Monzé. Il est docteur en neurosciences. C'est un gars qui a écrit et fait énormément de conférences concernant l'éducation des enfants. Et on va parler de concentration, on va parler d'intelligence artificielle, de cellulaire maintenant interdit dans les écoles et du fameux retour du vouvoiement. Donc, Joël Monzé sera là avec nous dans les prochaines secondes. Il me reste juste à peser sur ce piton-là. Voilà, c'est fait et ça va partir. Bonne soirée.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Joël Monzé, docteur en neurosciences qui passe le podcast avec nous ce soir. Salut mon ami.
Salut, salut!
Joël Monzé, c'est un docteur en neurosciences, mais je dois vous avouer aussi que c'est mon psychologue pendant les pauses, parce que je lui faisais part de la politique, que ce soit municipale, provinciale, fédérale ou internationale. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis des fois, ben, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Et Joël, il y a quelque chose qui m'a mis complètement à terre, hier ou avant-hier, je ne m'en rappelle plus. C'est un article qui a passé dans la presse ou le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'était une entreprise qui avait obtenu un contrat pour vérifier si la clôture qui retenait la brique de l'hôpital à Montréal, si elle était encore une fois sécuritaire. Et là, je me suis dit, un peu, on est rendu dans nos hôpitaux à voir des clôtures qui tiennent la brique pour pas que les briques tombent sur la tête des gens en bas. Ça, je veux dire, j'ai pogné un 2-3 minutes dans ma tête en me disant, mais on va-tu s'en sortir un moment de tout ce négativisme-là qui nous entoure?
Oui, puis c'est ce qui est triste, c'est que ce sont des choses. Alors, premièrement, les briques en tant que telles, ce n'est pas le mur en lui-même qui est dangereux, c'est un parement. Donc, mais ça reste que si ça tombe sur la tête de quelqu'un, ça va malheureusement mettre fin à sa vie. Donc, c'est important de le vérifier. Ouais. Mais oui, on a un gros problème dans la gestion de notre infrastructure depuis plusieurs années. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, mais en même temps, c'est comme si l'opérationnalisation de ce qui est à faire, il y a de la difficulté à le mettre en place.
Oui, j'ai compensé tout ce négativisme là ce matin en prenant un petit café sur ma terrasse puis écouter les oiseaux qui chantaient. Puis après ça a mieux été, mon ami. Mm-hmm. Hey, ce soir, on parle...
Mais ce que tu dis, c'est important parce que je crois que nous devons, comme citoyens, rester alertes sur ce qui se passe, ne serait-ce que parce que régulièrement, on doit poser notre vote sur un bulletin pour pouvoir déterminer quelle partie ou quelle personnalité on souhaite avoir comme représentant de notre comté ou de notre ville ou de notre territoire. Ouais. Mais si on ne reste que sur les mauvaises nouvelles, on va rentrer dans une spirale extrêmement dépressive. Alors que si on est capable de pouvoir, à côté de ça, et en fait être témoin de ça, être témoin de ce qui n'est pas beau, mais en même temps se recentrer sur ce qui va bien aussi dans notre vie. Et une personne, ça peut être aller se promener dans un parc, ça peut être simplement s'asseoir et regarder ses enfants être en train de jouer sur le côté puis avoir du plaisir avec eux. Ça peut être en train de peindre, ça peut être d'écouter une musique qui est inspirante, qui est enlevante, ça peut être téléphoner à un ami ou à une amie puis d'avoir une dynamique pour faire un projet éventuellement avec cet ami-là ou ces personnes-là. Donc, de ne pas rester uniquement avec la vision. On doit rester conscient de ce qui se passe, mais ne pas y mettre toute notre énergie pour être capable, en fait, de ne pas se laisser absorber par le trou noir.
Oui, effectivement. Puis des fois, quand mes enfants, ils me stressent trop, ils sont trop tannants, ben je les emborde en cave avec leurs amis, puis je m'en vais sur le divan en haut, puis je regarde sur mon cellulaire les photos d'eux pendant qu'ils étaient bébés. Tu sais, quand ils ne disaient pas un mot, puis ils dormaient, puis ils faisaient des petits sourires, puis ils ne m'achalaient pas. J'essaie de compenser par ces petits moments-là. C'est des bons trucs que tu nous donnes, Joël Monzé.
Oui, puis c'est un bon truc parce que dans un moment pareil, tu te rappelles en fait, malgré le côté de colère ou de frustration, d'impuissance, parce que les enfants ont été demandants quelques minutes auparavant,
ben oui.
C'est que tu te rappelles tout l'amour que tu as pour eux. Donc oui, tu es toujours conscient de... Il faut faire une intervention parce que les enfants ont besoin d'être guidés dans leur manière de se comporter avec nous ou entre eux, mais en même temps, tu te ramènes à l'essence de c'est quoi ta réalité de papa? C'est quoi ta réalité de maman? C'est quoi ta réalité de grands-parents si tu accompagnes tes petits-enfants ou pour l'enseignant, tu sais, de se rappeler pourquoi l'enseignant fait son travail et d'essayer de retrouver cette connexion-là à son espoir que ça va bien aller tôt ou tard.
Exact, exact. Tu as vu, tout comme moi, qu'on ramène le fameux vouvoiement à l'école. De ton côté, de quelle façon l'as-tu perçu? Parce que tu es un gars qui a écrit énormément de livres qui touchent les enfants et tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose à tes yeux à toi qu'on ramène le vouvoiement ou tu te dis, oh boy, OK, on fait un petit pas en arrière?
Mais moi, je pense que, premièrement, la manière dont ça a été énoncé par le ministre Drainville, c'est que c'est peut-être un peu sensationnaliste. Et c'est le côté que je vais trouver peut-être regrettable dans cette dynamique-là, parce que je crois qu'il y a quelque chose de fond. Je ne pense pas que le vouvoiement fait en sorte que... on va changer nécessairement la dynamique à l'intérieur de l'école. J'en parlais justement avec une école que j'accompagne depuis le début de l'année où je leur permets justement d'essayer de transformer leur manière de faire de la discipline. Et puis, à tous les mois, je les vois. Et une des enseignantes me disait, je vais peut-être être grossier, je vais présenter mes excuses auparavant. Et l'enseignante disait, ben, tu sais, quand un élève me dit « va chier » ou « allez chier », c'est la même chose. C'est pas parce qu'on est dans le vouvoiement que nécessairement ça va diminuer l'agressivité envers l'enseignant. Par contre, c'est peut-être un moyen, c'est peut-être un outil, c'est peut-être un levier qui peut être utile. Parce que si on crée parfois une petite distance à travers le vouvoiement et qu'on ramène en fait un rôle complémentaire, il y a le rôle de l'élève et il y a le rôle de l'enseignant, ils ont des rôles différents, mais sont en interaction l'un avec l'autre. Et moi, je crois que si on veut que nos élèves respectent leurs professeurs, il faut que les adultes respectent les élèves. Et parfois, l'enfant, quand la manière dont il va s'exprimer dans l'école, que ce soit avec les pères ou que ce soit envers les enseignants, souvent, ça reflète ce qu'il entend à la maison. Ce qu'il entend à la maison, que ce soit éventuellement une émission de télévision, ça peut être la dynamique qui se passe éventuellement avec les parents, mais il y a un besoin de civisme. Et je crois qu'il y a un questionnement sur le civisme qui est intéressant. Puis tantôt, tu parlais des journaux. Ce n'est pas Drainville qui a dit quelque chose, c'est M. Drainville qui a dit quelque chose. Ce n'est pas Legault, c'est M. Legault ou M. Rodriguez. C'est-à-dire que si nous aussi, comme adultes, on revient avec une certaine... un certain respect de l'individu, dans le sens que je n'ai pas à être d'accord avec M. Legault. Je peux être d'accord et je peux ne pas être d'accord, mais si je respecte la fonction de premier ministre ou je respecte la fonction d'un chef de parti ou je respecte la fonction de mon maire, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, mais de rester poli, on va par mimétisme amener nos enfants, nos adolescents à avoir un minimum de respect qui fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, ben, le jeune, quand il sera à l'école, ça va être beaucoup plus facile pour lui de comprendre que oui, il y a une fonction. Je peux être en colère contre mon professeur parce que peut-être que je suis furieux parce qu'il m'a mis un zéro dans mon examen. D'accord? En l'occurrence, j'aurais pu étudier peut-être un peu plus. Mais je vais respecter la fonction de l'enseignant. Et ça, ça se fait dans l'ensemble de la société. Et il faut que nous, comme adultes, nous redevenions des modèles.
De dire que le pour renforcer le civisme, ça doit commencer à la maison, Joël, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. On doit tous, en tant que parents, faire des efforts pour démontrer à nos enfants, de un, qu'on est des modèles, et de deux, qu'on doit respecter les gens qu'on croise et qu'on ne connaît pas, et qu'on doit respecter aussi les adultes, incluant les professeurs et autres, que ces enfants-là croiseront sur leur chemin. Mais c'est pas tout le monde qui a l'intelligence à la maison de demeurer des modèles pour leurs enfants, ce qui fait en sorte qu'on a un système d'éducation qui est là pour prendre le relais. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on donne la tâche difficile aux enseignants de ramener le civisme à l'école. Puis c'est comme si les parents, au courant des dernières décennies, étaient habitués à ça. Je suis pas capable de faire ma job, mais le prof va être capable de faire ma job. Puis quand ça marchera pas, ben je vais dire au prof, coudon, mon enfant, il est pas de même à la maison. Pourquoi vous êtes de même avec mon enfant? Puis c'est vous le problème, c'est pas mon enfant. C'est de, encore une fois, remettre ça sur le dos de nos professeurs qui en ont déjà plein les bras, là.
Mais je pense que la politesse et le civisme, c'est une question d'ordre général de toute la population. C'est certain que, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont séparés. Et donc, ils vont voir leurs enfants, quand ils sont très jeunes, c'est souvent du 3-3-2. Quand ils sont plus âgés, c'est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et souvent, le réflexe du parent, quand ces jeunes reviennent à la maison après avoir passé du temps dans l'autre maison, c'est qu'ils veulent du bon temps, ils veulent que ce soit agréable. Ils n'ont pas le goût de chicaner leurs enfants, ils n'ont pas le goût de rentrer en conflit pour une chose ou pour une autre. Or, les enfants, d'accord, ben, le fait de passer de l'école à une maison, de l'école à l'autre maison, c'est tout le temps une adaptation. Et donc, le degré de tension que le jeune vit, il va chercher d'une manière ou d'une autre une certaine forme de limite. Pas parce qu'il veut tester les limites, dans le sens, c'est pas comment dire, comme un adulte qui va vouloir éventuellement regarder jusqu'où je peux conduire en termes de vitesse avant qu'un policier ne me donne un ticket. Ça, c'est une décision qui est rationnelle de la part d'un adulte. L'enfant, il va aller chercher des points de réassurance en fonction, est-ce que mon parent est peut-être constant, cohérent et intègre. Et la même chose auprès de l'enseignant, la même chose auprès de l'éducateur spécialisé, la même chose auprès du policier éventuellement, le policier social qui se promène dans le quartier. Donc, il y a une recherche de cohérence et de constance. Et c'est la responsabilité de tout le monde. Et quand le parent arrive à comprendre que finalement, ça fait partie de la manière de rassurer son jeune et de stabiliser son jeune que de rappeler les limites acceptées ou non acceptées à l'intérieur de la famille, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour que le jeune retrouve un comportement beaucoup plus acceptable à l'intérieur de la famille. Et si tu savais, Yannick, le nombre de fois, quand je faisais de la thérapie familiale, que je proposais en fait aux parents quand ils étaient séparés, c'est de se baser sur le code de vie de leur école. Tout simplement parce que l'enfant, comme je disais tantôt, il a besoin de cohérence et de constance. Donc, il y a, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec le code de vie, ça reste que c'est un élément sur lequel nos jeunes, au minimum de 25 heures par semaine, doivent répondre. Et donc, si nous, comme parents, on se base sur le même code de vie, eh bien, pour le jeune, ça amène cette cohérence et cette constance. Et donc, ça va faire déborder, entre guillemets, vers la civilité de notre jeune, parce que justement, il va pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui est « OK, c'est la règle ». La même chose quand tu regardes, quand tu prends ta voiture, que tu roules aux États-Unis, en Europe ou en Ontario, le code de la route est relativement similaire d'un pays à l'autre. Et c'est ce qui nous permet justement de passer d'un pays à l'autre et de prendre une voiture. C'est certain que si on va en Angleterre ou en Australie, il faudra conduire de l'autre côté de notre auto, d'accord? Mais le code de la route en lui-même reste relativement similaire et c'est ce qui nous permet de nous adapter en fait au code des pays qu'on va visiter.
Est-ce que les enseignants sont convaincus qu'avec le vouvoiement, ça va ramener le civisme à l'école? Je regardais, il y a un sondage qui a été effectué en octobre dernier justement sur le vouvoiement. On posait la question aux enseignants, à savoir, est-ce que, selon vous, en tant qu'enseignant, le vouvoiement des enseignants, c'est un outil efficace pour contrer les incivilités? Et c'est 94% des enseignants qui ont dit non, Joël. Et là, on a un ministre qui est en train de vouloir mettre ça en place.
Oui, mais c'est pour ça que je disais qu'il y a probablement un aspect sensationnaliste qui est en arrière de ça. Je crois qu'il est pris avec une patate chaude qui est l'augmentation de l'intimidation, l'augmentation de la violence à l'intérieur de nos écoles. Mais je l'ai dit, je le répète, nos enfants sont en train de nous copier. Et puis, prenons un exemple extrême, ce qui s'est passé à Bedford. Le problème, ce n'était pas les élèves, le problème, c'était les adultes qui étaient en charge des enfants. D'accord? Donc, les enfants reflètent le manque de civisme que nous avons comme adultes. D'accord? Alors qu'un enfant qui vit dans un environnement, ce n'est pas juste une question de pauvreté, tu sais, parce que c'est vrai que parfois, tu peux avoir des familles qui sont tellement bousculées que papa et maman, ils ont autre chose à gérer que de gérer la civilité. Mais ce n'est pas parce que tu manques d'argent que tu manques de civilité en tant que telle. Tu peux avoir une personne qui peut, racler les fonds de tiroir à tous les mois ou à toutes les semaines en attendant sa paye, mais qui peut rester d'une profondeur d'âme et d'une générosité, d'un altruisme extraordinaire. Donc, pour moi, c'est une question d'individu, d'être humain, engagé là où on est. Maintenant, peut-être que le vocabulaire sera peut-être un peu différent, mais tu peux avoir des gens qui sont extrêmement agressifs en ayant des beaux diplômes ou en ayant beaucoup d'argent éventuellement. D'accord? Donc, revenons à ça. C'est vraiment tout une fait, une œuvre de civilité. Puis, je reviens à quelque chose que je t'ai dit tantôt, Yannick, c'est que parfois, dans la manière dont certains journalistes ou certains chroniqueurs, la manière dont on va parler des personnes en charge, c'est que parfois, ça manque aussi de civilité. Donc, comment est-ce qu'on veut que si des personnes instruites, des personnes intelligentes, sinon elles ne seraient ni journalistes ni chroniqueurs, peuvent se permettre de manquer de respect envers une personne qui est une institution, qui représente une institution. Tu sais, je reprends l'exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le maire Marchand, ça reste que c'est Monsieur Marchand. Et donc, il faut s'assurer que la manière de pouvoir exprimer les choses va inspirer nos jeunes. Quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pire que ce qu'on entend parfois dans nos écoles. Donc, c'est certain que pour le jeune qui va lire ça ou qui entend son parent dire ça à table ou dans un aparté à un moment donné dans une conversation, mais pour lui, il ne se rend pas nécessairement compte que ce n'est pas nécessairement des choses qu'il peut dire ou qu'il ne peut ne pas dire à l'intérieur d'une école.
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des enseignants, Joël, tu es docteur en neurosciences, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des enseignants qui inspirent les jeunes à être extrêmement polis en leur présence, puis il y a d'autres enseignants qui sont incapables de se faire respecter par les élèves, et les élèves parlent à ce professeur-là comme si c'était leur ami tout simplement, puis ils pouvaient les insulter, puis pas de vouvoiement et tout ça. C'est quoi la différence entre un professeur qui est capable d'instaurer une certaine relation élève-professeur, puis des professeurs qui sont incapables de le faire? Parce que c'est toujours les mêmes, là. J'ai rencontré des professeurs. Moi, j'avais un professeur, Gilles. Quand on rentrait dans la classe à Gilles, là, dès les premières minutes, là, on savait qu'on avait affaire à un professeur qui était très consciencieux, qui était très professionnel. Mais si tu te déplaisais à Gilles parce que tu parlais pendant son cours, bien, automatiquement, tu devais quitter le cours et t'allais en punition faire des copies. Là, et on fait 150 fois, je ne ferai plus jamais ça, Gilles, je te le promets. 150 fois, c'était long. Puis après ça, on revenait et on se tenait peinard pour à peu près 3 semaines. Qu'est-ce qui fait que ces enseignants-là semblent de moins en moins exister au Québec?
Mais je ne sais pas si ça existe de moins en moins. Peut-être qu'on en parle peut-être moins, mais je crois qu'ils existent dans toutes les écoles. Mais la base, je ne sais pas. Bon, probablement que la technique de M. Gilles d'écrire 150 fois « je dois respecter M. Gilles », ça de notre enfance. Je ne pense pas que ce soit des stratégies éducatives qui soient si prometteuses que ça. Il y a moyen de travailler autrement avec nos jeunes. Mais par contre, tu as raison qu'il y a des enseignants qui vont avoir une grande facilité à se faire respecter. Tu sais, j'ai enseigné pendant 5 ans, je ne me suis jamais fait chambarder, pas une seule fois. D'accord? J'ai enseigné aussi à l'université, je n'ai jamais eu de difficulté à donner mon cours, au contraire. Pourquoi? Parce que je suis cohérent, je suis constant, je suis intègre, je suis rigoureux. Donc, tous les professeurs qui rencontrent ces valeurs-là, même si de temps en temps, il peut y avoir une journée où c'est un peu plus compliqué parce que ça arrive à tout le monde, eh bien, globalement, les élèves vont manger dans la main de ces professeurs-là parce qu'ils en ont besoin. Ce sont des tuteurs de résilience, ce sont des gens sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Souvent, l'enseignant qui, malheureusement, puis n'entendez, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, n'entendez pas de critique dans ce que je suis en train de dire. Si un enseignant manque de rigueur, de cohérence, de constance et d'intégrité, c'est souvent parce qu'il ne va pas bien. C'est un signal d'alerte. OK, je ne vais pas bien, mais en allant pas bien, ça fait en sorte que quand je suis dans mon groupe classe, j'ai de la difficulté, en fait, à instaurer ce climat scolaire qui va faire en sorte que l'élève va me respecter. OK? Et je crois que c'est pas juste... Tu sais, il y a tellement de films, surtout les Américains, ils en ont fait plein de films où on voit un enseignant, un coach sportif ou un prof de ceci, un prof de cela, qui débarque dans une école, d'accord? Ce sont des écoles souvent qui sont bousculées parce que c'est peut-être dans un quartier qui est compliqué, mais ce prof, quand il incarne justement cette conscience, cette cohérence, cette intégrité-là, eh bien, il devient un phare pour les enfants, pour les adolescents, et c'est là que les enfants et les adolescents vont respecter ce phare-là. Donc, quand on est enseignant et qu'on se rend compte qu'on a de la difficulté, d'accord, à pouvoir installer ça dans notre classe, c'est un signal, OK, j'ai besoin d'aide, faut que j'aille chercher cette aide-là. Peut-être que l'aide peut venir à l'intérieur de l'école, peut-être que cette aide-là va venir à l'extérieur de l'école, peut-être une formation, peut-être un livre, peut-être éventuellement une thérapie, mais il faut aller chercher de l'aide parce que c'est qu'il y a souvent des enjeux de frontières, c'est que l'élève n'est pas notre ami, tu sais, on peut avoir une relation amicale sans que l'élève ne soit notre ami.
Exact.
On peut être proche de notre élève, je peux être très proche d'un élève même si j'utilise le vouvoiement, OK? Donc, c'est certain que parce que l'élève va voir mon regard, va voir mon sourire, va voir que j'ai confiance en lui, d'accord? Ça me demande d'être présent, ça me demande d'être en relation avec le jeune, dans une relation respectueuse. Et à partir de ce moment-là, le jeune est tellement nourri de la relation comme celle-là qu'il n'a même pas le goût de tester quoi que ce soit ou il n'a même pas le goût de venir vérifier. Alors, c'est certain que parfois, oui, il y a un jeune qui peut être un peu plus résistant parce que ça se passe mal à l'école, parce que ça se passe mal à la maison, parce que ça s'est peut-être mal passé à l'école dans une année précédente. Mais rapidement, quand l'élève se rend compte, hey, moi, je peux m'appuyer sur un professeur, c'est Monsieur Keating, Mademoiselle C, pour citer juste deux films, mais on pourra en avoir d'autres, comme je le disais, il y en a plein d'autres dans des modèles dans nos films. On peut, quand l'élève se sent vraiment dans une relation de respect avec l'adulte, mais il n'a pas d'énergie à perdre, d'accord, à transgresser le code de vie. Il va juste vouloir apprendre. Mmh. Alors, c'est certain, de nouveau, si l'élève a éventuellement lui aussi des enjeux de santé mentale parce qu'il est angoissé, parce qu'il y a eu un trauma, parce qu'éventuellement il a développé des comportements non acceptables et ainsi de suite, c'est certain que ça va peut-être demander une intervention groupée, les plans d'intervention vont être là et tout ça, mais que le professeur puisse revenir le plus souvent possible à son intégrité, sa constance et sa cohérence de manière à être capable justement d'insuffler la confiance des élèves, le respect et le sentiment de sécurité dans la classe.
Puis, je me souviens, quand j'étais jeune, Joël, on avait des professeurs qui avaient une tolérance qui était à géométrie variable. Des fois, ils étaient incapables de tolérer quelque chose et des fois, ils en toléraient tellement, ce qui faisait en sorte que le lendemain, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Fait qu'on challengeait pour savoir, bon, quel jour on est aujourd'hui? Le jour où il va être hyper patient puis on va lui faire pogner les nerfs dans 45 minutes ou le jour où on sait que, hey boy, si on rentre dans la classe et on fait du bruit avec nos chaussures, on va avoir une problématique avec ce prof-là. La géométrie variable pour les enfants, ça n'a jamais bien fonctionné. Là.
Non, parce que c'est très anxiogène pour des enfants et des adolescents d'être dans un environnement comme celui-là. Regarde comment nous, on réagit face à Donald Trump actuellement. D'un jour à l'autre, les règles peuvent changer. D'accord? Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, au-delà de ça, ça nous insécurise comme adultes. D'accord? Donc, imaginez que notre cerveau est pas mal développé et malgré tout, on est insécurisé par le comportement d'un président d'un pays tiers. OK? Alors, imaginez quand c'est le parent ou quand c'est quelqu'un à l'intérieur de l'école qui, justement, ça change continuellement d'une journée à l'autre. C'est tellement anxiogène, le jeune n'est pas bien, le jeune ne se sent pas bien et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va aller chercher l'aide, même si l'aide est incomplète, auprès de l'adulte. Un enfant, un ado, n'a pas un cerveau suffisamment développé pour être capable de réguler tout seul son anxiété. Donc, il va aller chercher l'aide auprès de l'enseignant. Et si, en cherchant l'aide auprès de l'enseignant, c'est de faire le chambin dans une classe, c'est de provoquer le professeur, eh bien, pour lui, c'est moins dommageable de provoquer le prof et d'avoir une sanction que de rester avec son angoisse au quotidien. Donc, quand je vois un enfant ou un ado qui est en train de provoquer à gauche ou à droite à l'intérieur de l'école, je dis, OK, qu'est-ce qui l'insécurise à ce point, ce jeune-là? Et si on peut identifier, éventuellement avec la complicité du parent, si on peut identifier ce qui est anxiogène pour le jeune, d'accord, ça pourrait être, par exemple, il y a eu un décès ou il y a quelqu'un qui est en train d'avoir une maladie très envahissante dans sa famille, puis c'est quelqu'un d'important pour le jeune. Ça peut être la peur de perdre son emploi pour un parent, ce qui fait que le parent est beaucoup plus tendu, beaucoup plus à la mèche courte à la maison. Ça peut être une situation où papa et maman sont en train de se séparer. Ça peut être une situation où on est dans une famille recomposée et les parents ou beaux-parents, on ne va peut-être plus les voir, mais il y a des frères et sœurs qui ne sont peut-être pas biologiques, à qui on a fait de la place dans notre vie, mais qu'on ne verra peut-être plus. D'accord? Nos jeunes vivent tellement de choses qui sont parfois compliquées que si le phare, en l'occurrence l'adulte de référence, n'est pas suffisamment solide, eh bien, à ce moment-là, le jeune va aller provoquer. Alors que quand il tombe sur un coach, quand il tombe sur un enseignant, quand il tombe sur un adulte qui est solide, comme tu parlais tantôt, M. Gilles, Mademoiselle C, M. Keating, je reprends les deux exemples de films que j'utilisais tout à l'heure, eh bien, à ce moment-là, OK, je suis en sécurité, c'est correct. Alors, c'est certain, ici, je mets des mots que le jeune ne va même pas se mettre, c'est instinctif, sa réaction. Et c'est vraiment une recherche de cohérence. Et si la recherche de cohérence, c'est de provoquer continuellement les adultes autour de lui, il va provoquer les adultes continuellement autour de lui.
Est-ce que, parce que je suis partagé là, pour ce qui est de l'utilisation ou non du cellulaire à l'école secondaire, exemple, au primaire, c'est totalement exclu, mais rendu au secondaire, je suis un peu partagé. Je me souviens, Joël, puis tu fais partie un peu de la même génération dont je fais partie. Parfois, on voulait avoir la paix à l'école quand on était au secondaire, puis on prenait notre fameux Walkman et on le mettait dans nos oreilles, puis on s'isolait un peu de cette façon-là pour avoir une pause mentale. On écoutait notre musique, on pouvait écouter la radio, puis c'était comme une façon pour nous de se sortir un peu du bruit ambiant qu'on avait à l'école secondaire. Pour certains, il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup d'amis, donc la musique était leur seul copain et ils l'utilisaient à bon escient à mes yeux. Puis de voir qu'on veut mettre l'interdiction totale pour ce qui est des cellulaires, sans nécessairement travailler extrêmement fort pour montrer aux enfants que oui, c'est possible d'avoir un appareil cellulaire puis de bien l'utiliser. Je suis un peu partagé, parce qu'il y a des professeurs qui me disent « Yann, c'est impossible d'enrayer les cellulaires au secondaire si le gouvernement ne prend pas cette décision-là ». Puis il y a d'autres profs qui disent « Moi, même si c'était légal le cellulaire à l'école, il n'y en a pas un qui rentrait dans ma classe. Puis si jamais il y a un cellulaire qui rentrait dans ma classe puis j'entendais un bip-bip, ben c'était terminé pour la semaine, j'y prenais son cellulaire pour la semaine ». Je suis tellement partagé. Ton avis en tant que professionnel de ton côté, quand on a dit qu'on allait imposer ça, l'interdiction du cellulaire au secondaire, ça a été quoi?
Mais écoute, si tu te souviens, dans une autre vie, tu m'avais déjà interviewé sur cette thématique-là. Ça fait plus de 15 ans que je signale le côté pervers de la nouvelle technologie. Pas parce que la nouvelle technologie n'est pas quelque chose de bon. De toute façon, elle est là, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un côté pervers avec cette technologie-là. Quand on utilise le Walkman, d'accord, premièrement, quand moi j'étais adolescent, le collège où j'étais me l'interdisait.
Tu n'avais pas le droit au Walkman?
Non, mais il fallait communiquer avec les autres.
T'as réussi à passer au travers de ton secondaire sans Walkman?
Exactement, mais j'écoutais mon Walkman à d'autres moments. J'écoutais mon Walkman quand j'étais dans le bus. J'allais souvent, quand j'avais terminé de faire mes devoirs, j'allais marcher dans le quartier où je vivais. J'allais faire 1, 2, 3, 4 kilomètres selon mon besoin pour décharger toute la tension que j'avais à l'intérieur de moi. Donc là, dans des moments pareils, oui, j'utilisais la musique, mais ce n'était pas une ressource qui était tolérée dans le collège dans lequel j'étais. Puis même si, comme professionnel, j'ai tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'usage du téléphone et autres, il a fallu à un moment donné que je cède avec mon garçon, d'accord? Parce que quand il était en secondaire 2, il était le seul de sa classe à ne pas avoir de cellulaire. Il disait « Papa, tout le monde est sur son cellulaire, je suis tout seul, je m'embête, je n'en peux plus, qu'est-ce que je fais? » Tu sais? Donc, là, si tu veux, il y a une pression, d'accord, externe qui m'a amené comme père à prendre la décision, OK, je vais céder, je vais permettre à mon garçon de pouvoir utiliser son cellulaire, mais je vais faire une éducation à l'outil numérique. Donc, il y a quand même toute une série de choses qu'on va faire ensemble pour essayer de favoriser de saines habitudes de vie. Le collège où il est actuellement a fait un sondage il y a environ un an pour savoir s'il voulait ou non interdire l'utilisation du cellulaire. Et en fait, ce sont les parents qui s'opposaient à ça parce que les parents voulaient pouvoir avoir un contact non-stop avec leur enfant. C'était intolérable pour eux l'idée que s'ils veulent communiquer avec leur enfant, par téléphone ou par texto, l'école le leur empêche. Donc, la règle pour empêcher le cellulaire, c'est aussi, d'accord, pour faire en sorte que le jeune puisse décrocher de temps en temps sa relation avec son parent, d'accord? Ça ne veut pas dire que le parent n'est pas une bonne personne. Souvent, c'est de l'inquiétude, mais on a des parents hélicoptères. On a des parents qui ne se rendent pas compte que quand on a une notification, quand on a un texto qui rentre, eh bien, ça prend plusieurs minutes pour que le jeune se reconcentre par rapport au cours. Alors, imagine tous les textos qui peuvent arriver d'un copain ou d'une copine qui sont à gauche et à droite, d'accord? Ce qui fait en sorte que ça vient altérer la capacité de concentration. Alors, de nouveau, il y a des jeunes qui vont avoir très facile à se reconcentrer et qui n'auront peut-être pas de difficulté à réussir leur année, d'accord? Mais il y a des jeunes qui sont plus fragiles, il y a des jeunes qui sont plus vulnérables. Et donc, en fait, c'est la même chose que par rapport à l'alcool. Tu peux peut-être prendre éventuellement 4 bières et garder, en fait, une capacité d'autocontrôle suffisante que pour te permettre d'être en interaction avec les autres. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable nécessairement de consommer cette quantité de bière et de rester, on parlait de civilité tantôt, de rester civilisé dans l'environnement dans lequel tu es. Tu sais, le nombre de mon oncle et de ma tante qui ont exagéré le jour de Noël, c'est légion et c'est ancestral. D'accord? Souvent, l'alcool est au centre de cela, tu sais. Donc, quelque part, si je reviens, oui, il faut mettre une règle et moi, je crois que c'est une bonne chose que le gouvernement prenne la décision d'interdire le cellulaire. Pour la petite note, c'est M. Drainville qui a fait passer ce règlement-là. Ça faisait partie de ce que Lionel Carman, qui est le ministre des Services sociaux, souhaitait mettre en place en 2020 quand il a lancé la réflexion sur l'usage du numérique. Mais pendant la pandémie, on a favorisé beaucoup l'usage de tout ce qui est numérique. Et il y avait même des publicités qui disaient « Ah ben, joue à des jeux vidéo, reste chez toi et sauve des vies ». Donc, on avait toute une dynamique pour maintenir nos adolescents à la maison qui faisait en sorte qu'on a dû utiliser le numérique dans une situation de crise sanitaire. Et c'était très difficile après pour le ministère des Services sociaux, après, de revenir avec des règles de vie beaucoup plus adéquates pour gérer le numérique de manière optimale pour nos jeunes. Ça ne veut pas dire que le téléphone est nécessairement mauvais. C'est toujours une question de comment j'utilise mon téléphone. Pour moi, c'est comme la voiture. La voiture en elle-même, elle n'est pas mauvaise. C'est comment j'utilise ma voiture en fonction de l'endroit où je me déplace. Si je me déplace sur une autoroute, si je me déplace dans un quartier résidentiel, si je me déplace sur un boulevard, s'il y a beaucoup de voitures, peu de voitures, des vélos, des piétons. Donc, c'est l'usage de ma voiture, pas la voiture qui est problématique. Donc, si on est capable de pouvoir accompagner nos jeunes à avoir un usage numérique adéquat, eh bien, ça va faire en sorte que ce sera probablement plus facile pour eux de bien l'utiliser. Mais je reviens avec la capacité de concentration d'un jeune. Savais-tu que le matin, parfois, nos parents laissent le jeune devant la télé. Tu sais, il est prêt, il va prendre le bus ou on va aller le conduire à l'école et on le laisse devant la télé pendant qu'on s'occupe éventuellement des plus jeunes. Eh bien, il y a des études scientifiques qui ont démontré que un jeune qui regarde la télé, 8 à 9 minutes de télé le matin suffisent pour perturber la capacité d'apprentissage tout au long de la journée. Donc, si tu permets à ton jeune d'avoir son téléphone cellulaire dans le bus et qu'il regarde des vidéos YouTube, partons du principe que c'est des vidéos le fun, ne serait-ce que la Pat Patrouille ou une vidéo d'un jeu vidéo et autres, eh bien, ça va venir perturber sa capacité d'apprentissage pendant le reste de la journée. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne tout ou rien. Il y a deux grandes voies, d'accord, pour avoir de la récompense, entre guillemets, que notre cerveau se sente heureux d'avoir fait ce qu'il a fait. Il y a une voie courte et une voie longue. Et en fait, quand j'utilise les vidéos, que j'utilise mon téléphone cellulaire, je texte avec mes amis ou je fais des activités plus numériques, j'utilise la voie courte. Or, quand je suis dans une classe et que je dois apprendre l'état de multiplication, je dois apprendre à résoudre un problème, je dois écrire correctement et ainsi de suite, j'ai besoin de la voie longue pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, si je suis entraîné en début de journée à utiliser la voie courte, ça me demande énormément d'énergie pour être capable d'utiliser la voie longue après et répondre, en fait, aux exigences du programme scolaire d'aujourd'hui.
Est-ce qu'on a des statistiques ou est-ce que tu as travaillé là-dessus sur le niveau de concentration des enfants dans les dernières décennies à ce jour? Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de concentration des enfants, exemple un enfant de 10 ans qui arrive à l'école primaire, est-ce qu'il est capable de se concentrer autant que les enfants des années 70, 80, 90, où on a remarqué que le niveau de concentration a grandement diminué dû au fait que les écrans sont arrivés dans nos vies?
En fait, ce qu'il y a, c'est que je te dirais que la capacité de concentration d'un enfant n'a peut-être pas nécessairement changé. Quand j'ai fait mon baccalauréat, on disait qu'un enfant de première année primaire, 7 à 8 minutes avec la même tâche ou la même matière, c'était un maximum. OK? Et donc, si je fais, mettons, 3 quarts d'heure de cours de français, il va falloir que je varie le support ou je varie l'activité à plusieurs reprises pour être capable, en fait, de maintenir la capacité d'attention de mon élève. Ce qui a changé, puis ça évolue un petit peu, tu sais, on peut peut-être monter à une demi-heure quand on est en sixième année primaire, et ça peut monter à peut-être 50 minutes au fur et à mesure du secondaire, d'accord? C'est quelque chose qui est là. Donc, les données, en fait, elles sont toujours là. Ce qui est plus difficile, c'est que même si tu as un prof extraordinaire devant toi, si le jeune a regardé la patte patrouille ou Bob l'éponge, qui sont des choses extrêmement stimulantes au niveau auditif ou au niveau visuel, eh bien, ton professeur, ça va lui demander une énergie incroyable que pour arriver à stimuler son élève de la même manière. Donc, ce n'est pas nécessairement une capacité de concentration qui pose problème, c'est une capacité de tolérer d'être moins stimulé ou d'être beaucoup plus ramené à moi-même quand je suis dans un cours de philosophie, quand je suis dans un cours de géographie ou d'histoire, qu'éventuellement, j'aime un peu moins ces matières-là. D'accord? Moi, je tripais, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça dépend souvent quel est l'enseignant qui va aussi transmettre l'information dans ces cours-là. Donc, c'est la capacité d'effort. Autrement dit, si je suis devant mon téléphone, je n'ai pas d'effort à faire pour être attentif. Alors que quand je suis en classe, j'ai un effort à faire. Et si on empêche nos enfants de développer le sens de l'effort, eh bien, à ce moment-là, ça va être compliqué pour eux de suivre un professeur qui est peut-être un peu moins dynamique, un peu moins folklorique, un peu moins concret, d'accord? Et c'est là que le jeune va avoir de la difficulté. Là où ça joue beaucoup, par contre, c'est chez les adultes. On se rend compte que les adultes, leur capacité de concentration revient à des taux similaires à ceux de quand on est enfant.
Ah oui. Ah, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. J'avais discuté avec une amie qui a fait le tour du monde avec son conjoint en bateau, Joël, et elle faisait l'école à la maison, en fait, l'école au bateau, avec ses enfants, et c'était un 3 à 4 heures d'études par semaine seulement. Et ces enfants-là ont réussi à passer leur examen haut la main et tout a bien été. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'école à la maison prend si peu de temps pour autant de résultats versus l'école directement dans une école, dans un établissement du Québec qui va faire en sorte que ça va te demander de 8 heures jusqu'à 16 heures à chaque jour du lundi au vendredi?
C'est le nombre de stimulations non nécessaires à l'intérieur d'une école. D'accord. Et ça peut être, par exemple, un élève qui attire l'attention dans une classe et qui fait en sorte que certains élèves ont plus de difficultés à se concentrer. C'est la gestion de classe, c'est la gestion des conflits.
Ouais.
D'accord. C'est la disponibilité de l'élève qui va faire en sorte, puisque tu disais tantôt par rapport à cette maman-là, il y a deux ans, j'ai traversé le Canada avec mon garçon et ça lui prenait 15 minutes à faire son programme de 5 heures de cours de la journée. Donc oui, quand on est, certains jeunes vont avoir beaucoup plus de facilité. Ce qui va changer énormément. C'est que quand le parent fait éventuellement l'école à la maison, comme ce que tu partageais tantôt par rapport à cette dame qui a fait le tour du monde, c'est que la qualité de présence de l'adulte et la présence tout court d'amener son jeune à faire ses devoirs et ses leçons avec lui, eh bien, le jeune, comme je le disais tantôt en début d'émission, il va se syntoniser sur l'émotion de l'adulte. Il a besoin de l'adulte pour être capable de réguler son stress et de réguler ses comportements. Si l'adulte est malheureusement en difficulté, eh bien à ce moment-là, il peut éventuellement le provoquer. Mais si le parent ou l'enseignant est solide, à ce moment-là, bien, ça fait en sorte que la relation que le jeune va avoir avec son parent, ça l'aide, ça le ground, ça lui permet à ce moment-là d'être totalement disponible pour les apprentissages, et c'est ce qui fait en sorte que dans une relation 1-1, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus efficace. Et puis, tantôt, on a parlé rapidement de la pandémie, mais je vais revenir avec quelque chose qui s'est passé en 2020. Je travaillais beaucoup avec Jean-François Roberge à l'époque. Je faisais partie des comités qu'il avait mis en place pour essayer de proposer des stratégies pour aider nos jeunes dans les écoles. Et en fait, au mois de mai 2020, on a fait la réouverture des écoles primaires et maternelle pour permettre aux travailleurs de recommencer à travailler, les secondaires, eux, restaient encore chez eux jusqu'au mois septembre. Et en fait, donc, les jeunes ont eu entre 6 et 7 semaines de cours à ce moment-là, mais dans les fameuses classes bulles. Et donc, c'était un maximum d'une dizaine d'élèves avec un enseignant. Et une des personnes, en fait, qui était sur le comité avec moi, c'est la présidente de l'Association des orthopédagogues du Québec, Isabelle Gadebois, et qui avait fait un sondage auprès de ses membres. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que des enfants qui avaient 2 ans de retard en l'espace de 6 à 7 semaines avaient rattrapé le groupe. Donc, une des solutions, si on veut améliorer nos écoles, c'est quitter le modèle du 19e siècle qui disait 30 élèves dans une classe, c'est revenir avec des petits groupes, d'accord, et faire en sorte que les élèves puissent de nouveau s'appuyer sur quelqu'un de solide, de préférence, d'accord, pour faire en sorte que les apprentissages soient beaucoup plus efficaces. Donc, avec des petits groupes, ça va faire en sorte, l'idéal, ce serait une dizaine d'enfants à l'école primaire, peut-être 12, 13, 14 en fin de primaire et 16, 17, 18 élèves au secondaire pour faire en sorte que nos jeunes embarquent. Mais encore, là, ça devient un projet de société. Est-ce que comme projet de société, on a le goût d'avoir autant de profs? Mais on s'entend que si les enseignants se retrouvent avec des plus petites classes, moins de tâches administratives, avec une relation beaucoup plus agréable avec les élèves, parce que les élèves vont pouvoir s'appuyer beaucoup plus sur la qualité pédagogique éventuellement de l'enseignant, eh bien, on va se retrouver avec une charge de travail beaucoup plus agréable pour les jeunes qui ont le goût de devenir enseignants et qui, au lieu de voir des classes surchargées et des troubles de comportement à tort et à travers, comme on en entend beaucoup parler malheureusement ces derniers mois, eh bien, on se retrouve avec des classes beaucoup plus stables. Et ces classes plus stables font en sorte que ça va redonner le goût aux enseignants de recommencer à travailler et de s'engager dans la fonction.
Oui, puis en même temps, ben, peut-être qu'on pourrait diminuer le taux de décrochage aussi avec des classes beaucoup plus petites. Mais moi, c'est ce qui m'avait marqué. Tu sais, elle a fait le tour... Mm-hmm. Ben, pas le tour du monde, mais elle a fait la côte est américaine en bateau. Après ça, elle est descendue jusqu'en bas, elle a traversé, elle a remonté par l'autre côté. Puis les enfants faisaient l'école sur le bateau. Puis c'était 4 heures par semaine. Puis là, moi, je me dis, mais comparativement à mes enfants, moi, ils vont du lundi au vendredi, de 8h jusqu'à 3h30 à peu près, là, leur école, puis ils apprennent la même matière. Est-ce qu'on aurait, est-ce que ce serait possible, justement, de diminuer ces heures d'apprentissage-là de nos enfants à l'école, ce qui ferait peut-être alléger les choses pour eux?
Mais je pense que si on réduit la taille des groupes et que, par exemple, on mette beaucoup plus d'activités sportives, de découvertes de la nature, qu'on intègre autrement le cursus pédagogique, moi, je crois que c'est un facteur d'avenir. Tu sais, l'intelligence artificielle est en train d'envahir de plus en plus notre univers pour les meilleurs et pour le pire. C'est comme la voiture. L'intelligence artificielle peut conduire de façon ou avoir mission impossible qui va nous montrer le côté sombre de l'intelligence artificielle. Il y a aussi le côté intéressant, c'est qu'on va pouvoir peut-être individualiser beaucoup plus les apprentissages des élèves. Et si on peut arriver en fait à statuer ou orchestrer l'éducation autrement, que parfois l'élève va être sur l'ordinateur, c'est pas parce que tantôt j'ai critiqué le téléphone cellulaire que l'ordinateur est une mauvaise chose, ça dépend de la manière dont on stimule l'élève. C'est la surstimulation qui pose problème et qui fait en sorte que le cerveau devient beaucoup plus difficile à manœuvrer pour pouvoir faire de l'apprentissage scolaire traditionnel. Mais on peut très bien mettre les élèves dans, éventuellement dans des tâches prédéterminées et encadrées par l'IA, et en même temps avoir l'enseignant qui va aider des élèves qui peut-être ont plus besoin d'être rassurés, qui ont plus besoin d'être, de se sentir en sécurité, qui ont plus besoin du lien, qui ont plus besoin de, peut-être d'une explication hyper individualisée, mais d'une personne à l'élève en tant que tel, ce qui fait que la qualité du lien, comme la dame dont tu parlais tantôt sur son bateau, la qualité du lien rend l'élève disponible. Et donc, de nouveau, l'élève a beaucoup plus de facilité à rencontrer les attentes pédagogiques, mais également les attentes disciplinaires. Comme je disais tantôt, les provocations que nos jeunes font, c'est parce que nous, comme adultes, il y a des moments où on ne va pas bien, puis on a toutes les bonnes raisons de ne pas aller bien, le monde est bousculé à tort ou à travers, il n'y a aucune critique de l'adulte derrière. Je dis juste que l'enfant, l'ado qui ne va pas bien, a besoin de sentir un adulte solide auprès de lui, et c'est à ce moment-là que lui, à ce moment-là, relâche la tension et devient disponible. Tu sais, j'aimais beaucoup regarder Toc 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 parfois avec mes enfants, et j'ai utilisé cette petite télésérie qui était là pour les enfants il y a quelques années, et je disais, il faut 4 adultes en santé pour compenser, d'accord, Monsieur Crackpot. Monsieur Crackpot n'est pas méchant, mais il est méchant en même temps, d'accord? Mais son mal de vivre, son mal d'être fait en sorte que sa relation avec autrui, elle est hyper désagréable. Mais si on est des adultes solides autour des enfants, les enfants sont capables de se développer de manière saine et sereine. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de monsieur et de madame crackpot parce qu'il y a plein d'adultes qui ne vont pas bien. Donc, qu'est-ce que ces adultes qui ne vont pas bien peuvent faire pour essayer de simplifier leur vie, pour essayer de retrouver leur plaisir de vivre, leur engagement dans la vie, pour être capable de, OK, j'ai envie d'aller mieux, même si autour de moi ça brasse, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Et plus il y aura d'adultes qui prendront cette décision-là, quel que soit notre rôle, qu'on soit parent, qu'on soit éducateur spécialisé, qu'on soit enseignant, qu'on soit policier, qu'on soit responsable d'institution, parfois, tu sais, dans les écoles, le concierge a un rôle tellement extraordinaire, pourtant il n'enseigne pas, mais il est juste là. Et c'est pour certains enfants, juste d'aller parler 5 minutes avec le concierge lors d'une récréation est suffisant pour que l'enfant se sente vu, entendu, respecté, aimé et réembarque dans son processus d'apprentissage. Donc, tout le monde à l'intérieur du microcosme de l'école et de la communauté devrait être impliqué.
Exact. Joël, on va faire une courte pause, si tu le veux bien. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir de passer la soirée avec Joël Monzé, docteur en neurosciences. Il va être avec nous pendant quelques minutes tout de suite après la pause. Touchez pas à ce piton-là, on vient.
Marceau, le soir. Marceau, le midi.
Vous savez que je suis le gars le plus green ici à la station. Et le soir, avant de me coucher, je pars un lavage. Puis toute la... Bon, la brassée se fait pendant la nuit. Puis au petit matin, quand je me lève à 6 heures, ben, je mets ça dans la sécheuse.
T'as pas peur qu'elle feu pogne?
Quand la laveuse part.
Oui. On m'a toujours dit.
Pardon.
Fais pas.
Je pense qu'elle est mêlée. Je pense pas. Quand la laveuse part.
Mais la laveuse sécheuse, on m'a toujours dit pars pas de brasser la nuit pendant que tu dors.
La laveuse aussi.
Oui, on m'a toujours dit.
La sécheuse, peut-être qu'il y a des possibilités de. Ouais. Mais la laveuse, c'est une affirmation particulière.
Salut Audrey.
Hey, hey. Puis si jamais il y a quelqu'un qui a allumé un incendie qu'une laveuse sur la Terre ou peut-être dans la galaxie, vous pouvez me texter au 88.
C'est pas de la belle Audrey.
971-102-1. 88-971-102-1.
Marceau le midi. Tous les jours en semaine, 11h30. Et en rattrapage, où Marceau?
Ben sur le blvd.fm.
Bravo.
Y a rien là. C'était écrit sur la feuille.
102-1. Du 27 au 29 juin, on passe en mode rodéo à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Jeudi, gala de lutte NSPW et hommage à AC/DC avec Hell's Bells. Vendredi et samedi, sous le chapiteau, David Pinault, Phil Lauzon et gros party au Saloon. Et dimanche, pour la journée de la famille, animation, mini-rodéo et spectacle à 15h. Achetez vos billets en ligne maintenant pour les 3 rodéos. Faites vite, ça part vite. Accès gratuit au site Le Rodéo de Sainte-Catherine, présenté par Boulevard 102.1. Alerte aux réductions chez Chaussures Filion. Jusqu'à lundi, on paie l'équivalent des taxes sur les souliers. Détails dans nos magasins de Québec et Lévis, chaussuresfilion.ca.
Gros week-end chez Escalvé Air Beaumont. De jeudi à dimanche, c'est la grande vente porte ouverte. Burger gratuit sur place. Rabais jusqu'à 30 000 $ et financement à partir de 6,79%. Viens vivre l'aventure VR. Escalvé Air Beaumont, sortie 337 autoroute 20.
pour des arrivages quotidiens et le plus grand inventaire de fleurs, arbustes, plantes tropicales, terreaux, outillages, accessoires de jardin, j'en passe. Floralie Jouvent, 150 000 pieds carrés de bonheur à Québec et Lévis. Ouvert ce lundi de la fête des Patriotes.
Ananas, jambon, fromage, une pizza hawaïenne. Non, une poutine Aloha! Débordante de saveurs et garnie de notre fromage frais du jour, la poutine Aloha de la fromagerie Victoria vous fera saliver. C'est un rendez-vous dans vos fromageries Victoria, familiales depuis 75 ans.
En 1970, Matelas Dauphin fabriquait, vendait et garantissait ses tout premiers matelas. 55 ans plus tard, Matelas Dauphin est devenu l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Pour souligner son 55e anniversaire, Matelas Dauphin vous offre des économies majeures sur ses matelas plus taxes payées. Économisez 493 $ sur le matelas Silhouette, format double, en spécial à 699 $ taxes payées. C'est la vente anniversaire dans tous les Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Venez admirer de plus près le tout nouveau Tiguan 2025. Il est maintenant disponible en précommande chez Volkswagen Saint-Nicolas. Profitez d'une réduction de 1% sur votre taux de financement en précommandant dès aujourd'hui. Le Tiguan 2025, c'est l'alliance parfaite entre la puissance, le luxe et la technologie. On peut donc dire que le Tiguan redéfinit la norme. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Salut, c'est Martin. Choisir Moreau PRS, c'est s'offrir une pièce de plus et du plaisir en famille. C'est devancer l'été et profiter de tout son temps à l'extérieur. En plus, ils utilisent des produits exceptionnels, Sunspace, Sunroom, Moreau PRS. Je vous le dis, ils sont vraiment sa coche.
Avec la campagne Donner la réussite du Collège des hauts sommets, 100% de votre don est remis en bourse d'études. Optez pour un don mensuel, un petit montant qui fait toute la différence pour la réussite scolaire au Québec. Donnez selon votre budget et transformez des vies dès aujourd'hui.
Production Optimale célèbre 20 ans de création. Nouveau look, même rigueur. Nos artisans de production vidéo donnent vie à votre vision et notre expertise cinématographique est au service de votre message. Production Optimale, nous travaillons dans l'ombre, vous brillez. ProductionOptimale.ca.
Tu sais, la fois où tu partais en vacances, mais que t'as oublié de réserver. Ben viens chez Voisin et participe au concours Destination Gagnante. Il y a plus de 135 000 $ en prix à gagner. Merci, Voisin! Détails et règlements en magasin.
Lévis Mazda vous offre l'excellence et la qualité de véhicules fabriqués au Japon avec le CX-5 GX en location 48 mois à 99 $ par semaine avec un léger comptant. Le Mazda 3 GX en location 48 mois à 85 $ par semaine avec un léger comptant. On vous livre ça rapidement grâce à notre large inventaire et en plus, on vous donne le meilleur prix pour votre échange de véhicules. Passez nous voir au 5095 rue Louis H. Lafontaine. Chez Lévis Mazda, vous allez voir, on s'occupe de vous.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Ce printemps chez Ashton, la Roast Beef Bacon Chipotle est à l'honneur. Avec son roast beef effiloché, son bacon émietté, sa sauce chipotée et ses oignons croustillants, elle est populaire comme jamais. La poutine roast beef bacon chipotle est disponible maintenant. Ashton, frais, vrai.
Du 16 au 18 mai, c'est le Boxing Mai chez Passe-temps 3000. Des rabais fous dans tous les départements. Jeux de société, jouets, casse-tête. Le Boxing Mai Passe-temps 3000, meilleur qu'à Noël. Trois jours de rabais fous du 16 au 18 mai chez Passe-temps 3000, rue Soumande.
C'est votre chance de passer à l'électrique à la vitesse Mach-E et de profiter du grand retour de l'incitatif provincial. En ce moment, louez nos dernières Mustang Mach-E Select 2024 à traction intégrale d'une valeur de 54 200 $ à 565 $ par mois sur 60 mois sans acompte. Une location à 0 % pour seulement 131 $ par semaine? Depuis le temps que vous attendiez une offre comme celle-là. Passez vite chez votre détaillant Ford du Québec. Certaines conditions s'appliquent, incluent l'incitatif provincial.
Boulevard 102.1, la radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Et que je sais plus quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir?
OK, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, celui qui m'envoie la meilleure joke risque de gagner une carte cadeau. Tiens, la poutine pour toute la famille.
As-tu pensé à ce que tu voulais regarder à soir à la télé? Puis ça me tente pas de passer ma soirée à checker des previews sur Netflix.
Hey, je vous ai préparé une liste de 2-3 séries, 6 épisodes, c'est closé, c'est fini.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
Le soir. 102.1.
Joël Monzé, docteur en neurosciences, est avec nous pour ce qui est des prochaines minutes. Joël, il nous restait à parler de l'intelligence artificielle, si tu le veux bien, en éducation. Est-ce que tu as regardé un peu l'impact de l'intelligence artificielle en éducation? Puis parfois, avec mes enfants, quand mes enfants me posent des questions, je m'en vais sur mon application d'intelligence artificielle et je dis, peux-tu me faire un résumé? Là, je te donne un exemple comme ça, mais de la théorie des cordes pour les nuls, mettons. Je suis nul, je veux que tu m'en apprennes un peu plus sur la théorie des cordes, puis j'aimerais en avoir un résumé. Et là, tu as l'intelligence artificielle qui, j'ai même pas besoin de lire, là. C'est elle qui me fait un résumé. J'ai juste besoin de retenir ça. Puis après ça, je répète ça à mes enfants. Est-ce que l'intelligence artificielle va bien servir en éducation?
Mais en fait, si ça nous permet de simplifier certaines tâches, d'accord?
Ouais.
Pourquoi pas? Ce que tu disais tantôt, poser une question sur la théorie des cordes, mais imagine que tu es professeur au secondaire, tu as un élève qui te pose cette question-là dans un cours, et alors à ce moment-là, tu te dis « Ok, c'est une excellente question, je te remercie, je te reviens au prochain cours, je vais me faire une tête là-dessus parce que j'ai des petites idées, mais je ne maîtrise pas assez le sujet. » Et qu'au prochain cours, je reviens et je lui propose éventuellement une explication par rapport à sa question.
Ouais.
De cette manière-là, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui nous permet de gagner du temps. Je pense que certains élèves pourraient même avoir accès à des logiciels d'orthographe ou de mathématiques qui pourraient faire en sorte qu'il va être beaucoup plus efficace pour pouvoir arriver à développer les compétences attendues au niveau de sa scolarité. Uh-huh. D'accord? Moi, mon orthographe s'est tellement amélioré grâce à des autocorrecteurs dans Word, entre autres, ou dans Word Perfect auparavant,
c'est
souligné en rouge ou en bleu. Donc, immédiatement, je n'ai pas seulement la réponse, mais je sais que j'ai fait une erreur. Alors que quand je modifie l'écriture de ce mot-là, le signal d'erreur disparaît,
ouais.
Ce qui fait à ce moment-là que ça m'améliore. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose d'utile à ce moment-là. Si, par contre, j'utilise l'intelligence artificielle pour oublier de penser, eh bien, malheureusement, mon cerveau ne se développera pas. Donc, l'enseignant doit faire attention à bien utiliser, bien encadrer éventuellement son jeune. Et peut-être que oui, on va moins demander à ce que le jeune fasse un texte à la maison parce que ce sera peut-être plus compliqué pour nous de pouvoir arriver à voir si ce qu'il a utilisé ChatGPT, Gemini ou l'autre chose. On va peut-être le demander en classe, d'accord? Mais en lui-même, l'élève doit être amené à réfléchir, doit être amené à se poser des questions, doit être amené à avoir une démarche logique d'apprentissage. Et les outils numériques sont des outils. Et je reviens, c'est comme la voiture. On l'utilise bien ou on l'utilise mal.
Exactement. Joël Monzé, ça a été un plaisir de discuter avec toi ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Tu es docteur en neurosciences. Pour les gens qui voudraient avoir des conférences de docteur Joël Monzé ou on veut avoir accès à tes livres qui concernent l'éducation des enfants, on peut te trouver à quel endroit?
En fait, le plus simple, c'est joelmonzé.com, qui est le site personnel, ou si vous voulez justement des conférences, des livres et autres, il y a en fait mon site de formation où il y a beaucoup d'éléments virtuels qui est là, c'est cerveauetpsychologie.com, donc cerveauetpsychologie.com, où là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans les différentes thématiques qu'on a abordées avec toi aujourd'hui.
Merci beaucoup pour tous tes éclaircissements dans la dernière heure, ça a été un plaisir, puis on se dit à la prochaine, cher ami.
Avec grand plaisir. Salut à toi, Yannick. Salut à tout le monde.
Nous, on se laisse là-dessus. Juste de passer une agréable soirée sur nos ondes et on se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Alerte aux réductions chez Chaussures Filion. Jusqu'à lundi, on paie l'équivalent des taxes sur les souliers. Détails dans nos magasins de Québec et Lévis. Chaussuresfilion.ca.
Bourbeau, pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bourbeau et fils, l'expertise, le souci d'en offrir toujours plus et les conseils de qualité s'acquièrent avec les années. La passion, elle, nous habite depuis 87 ans. Votre centre jardin Gérard Bourbeau et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Jardinier amateur ou producteur, vous trouverez un grand choix de produits horticoles, tout pour combler vos besoins. En pépinière, plusieurs rosiers, une multitude de grimpantes, d'arbres fruitiers et plus de 1000 variétés de vivaces. Premier avenue à Charlebourg, gérardbourbeau.com.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au commeneuve.com.
C'est la semaine Rona. Pour l'occasion,
Mike chez Rona
vous attend avec des promotions parfaites pour démarrer le printemps. Jusqu'à mercredi, économisez 15% sur tous les meubles d'extérieur et 15% sur les barbecues, accessoires et carburants Pit Boss. Les promotions parfaites pour donner un peu d'amour à votre maison puis sortir dehors profiter du soleil. Et pour d'autres promotions ou conseils d'experts, allez voir
Mike chez Rona.
Les conditions s'appliquent. Trouvez plus d'offres sur rona.ca.
Le printemps est souvent synonyme de renouveau. C'est donc le temps d'enfin prendre soin de vous. Passez à l'Institut Diva, qui s'occupe de votre bien-être en vous offrant des services de coiffure, de massothérapie et d'esthétique. Sur 4 Bourgeois et au institutdiva.com.
Vous cherchez un traiteur qui propose plus que des sandwichs? Depuis 14 ans, Équilibre Traiteur mixe fraîcheur, style et service aux petits oignons. Boîte à lunch sexy, cocktails qui font jaser et buffet qui vole la vedette. Équilibre Traiteur, raffiné en cuisine, funky dans l'assiette.
Lévis Mazda vous offre l'excellence et la qualité de véhicules fabriqués au Japon avec le CX-5 GX en location 48 mois à 99 $ par semaine avec un léger comptant. Le Mazda 3 GX en location 48 mois à 85 $ par semaine avec un léger comptant. On vous livre ça rapidement grâce à notre large inventaire et en plus, on vous donne le meilleur prix pour votre échange de véhicules. Passez-nous voir au 5095 rue Louis H. Lafontaine, chez Lévis Mazda. Vous allez voir, on s'occupe de vous.
L'appli Boulevard sans fin pour écouter en direct le rattrapage des émissions et des podcasts. Au gym, à shop, pis même dans ta douche. L'appli Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
C'est déjà le temps de penser à s'équiper pour la saison de golf et faire plaisir à maman chez